Voilà, bonsoir à tous. C'est toujours une joie d'être ici. Depuis samedi, nous sommes ici avec mon épouse et notre petite fille. Et c'est avec beaucoup de joie et de bonheur. Vous savez, quand M. Gault parlait de cette chance d'avoir un local climatisé, il y a quelques temps en arrière de ça, on a eu un missionnaire qui est venu de passage à Nice et présenter son travail et disait... assez justement d'ailleurs que quelquefois les chrétiens, lorsqu'il pleut ou lorsqu'ils sont fatigués, traînent un peu, ne veulent pas venir à l'église. Et ils disaient, mais voilà, nous, là-bas, les chrétiens, quand ils vont à l'église, ils ne savent pas s'ils vont revenir en vie. Ils ne savent pas s'ils vont rentrer en vie. Mais ils y vont quand même parce qu'ils ont saisi cette importance de se retrouver, de prier. Et ça m'avait vraiment marqué, ça m'avait interpellé, parce que c'est vrai que des fois on est là, Seigneur, je suis fatigué, je veux un peu me reposer, mais dans d'autres endroits, des chrétiens, c'est au prix de leur vie qu'ils vont prier, qu'ils vont se rassembler dans des endroits austères, mais là où il y a la présence de Dieu. Que ça puisse vraiment nous interpeller, nous enseigner. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 11. Au premier verset, il est écrit « David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu » en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Massa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barizaï, le Galaïte, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bachourim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je le jurai par l'Éternel en disant « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron. Il régna 7 ans à Jérusalem. Il régna 33 ans. Amen. Voilà, on a fait une longue lecture, mais c'était un petit peu nécessaire. On est à la fin de la vie de David. Et je pense que, comme toute personne qui finit sa vie, qui achève un travail, qui s'en va pour donner la main à son successeur, il va donner des consignes à son fils Salomon. Il va donner un cadre à son fils en lui disant « voilà ce qu'il faut que tu fasses pour réussir, et on va y revenir bien entendu, et voilà les affaires qu'il faut que tu traites ». Et vraiment, ça m'a interpellé, j'ai médité sur ce passage, parce que je me suis dit « voilà, David, c'était un homme sage, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a vécu des expériences extraordinaires, un homme qui connaissait la valeur de Dieu, un homme qui, dans son cœur, n'a jamais cessé de vouloir faire le bien et d'être agréable à son Dieu en tout cas. Et il va donner, et il va faire des remarques, et il va donner des pistes pour son fils qui sont un peu particulières, qui font réfléchir en tout cas. Le premier point, et c'est un point qu'on retrouve tout au long de la parole de Dieu, et c'est évident, c'est un peu, et bien entendu même beaucoup, ce que Jésus va dire et va reprendre lorsqu'il va dire « Mais voilà, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous voulez m'être agréable, vous allez recevoir ma parole et la mettre en pratique. » C'est la première des choses que David va laisser à son fils. Il va lui dire « Mais voilà, c'est comme s'il lui disait la plus importante des choses pour toi dans ta vie, c'est que tu suives les commandements de l'Éternel, c'est que tu observes ce que Dieu veut pour toi dans ta vie, c'est que tu fasses la volonté de Dieu par-dessus tout. » Et ce soir, c'est un message vraiment d'encouragement, mais qui peut nous placer dans un cadre un peu particulier, parce que je me disais, mais voilà la direction que doit prendre l'Église, voilà la direction que doit prendre les chrétiens, voilà la direction que nous devons prendre chacun d'entre nous. Et ce que David va dire à Salomon, c'est un peu notre propre direction, vers là où nous devons aller, vers là où nous devons nous tenir. Ça nous ramène à notre propre personne, à notre caractère. Qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer ce travail que nos pères nous ont laissé, que l'Église est en marche, l'Église marche dans cette direction où il y a là ce fardeau pour les âmes, il y a là cette nécessité de vouloir gagner des âmes, de pouvoir voir des personnes passer de la mort à la vie. Ce travail dans lequel est engagée l'Église, dans la sanctification, dans la parole de Dieu, dans la doctrine, en ne pas s'éloigner des saintes Écritures. Voilà vers quoi nous devons aller, voilà vers quoi il était nécessaire que Salomon puisse comprendre vers où il devait aller. Garde la parole, suis ce que la Bible dit, suis les préceptes de ton Dieu. Voilà ce que nous devons nous dire à nous qui sommes là, et je sais que je m'adresse à des personnes qui ont à cœur la prière, qui sont là, mais il est bon, je pense, de se rappeler ces choses. Il a été bon pour Salomon de commencer son exercice, son ministère. Il a été bon pour Salomon lorsqu'il va, et on pourrait le transposer à un chrétien moderne, lorsqu'il s'engage dans l'Église, de comprendre que malgré tout le travail qu'il aura à faire, malgré toutes les activités qu'il pourra faire, malgré tout ce qu'il pourra essayer de faire pour être agréable à Dieu, il y a quand même en premier, c'est de dire, voilà, prends du temps. Prends du temps pour méditer la parole de Dieu, prends du temps pour pouvoir la pratiquer, prends du temps pour pouvoir aller de l'avant, prends du temps pour pouvoir réfléchir sur ce que Dieu veut pour ta vie. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, pourra dire Jésus. Il y a beaucoup de versets sur ce sujet-là. Jésus va reprendre vraiment cet enseignement, va continuer, dirais-je, cet enseignement. Et David, c'était un peu mon introduction, parce que j'aimerais m'attarder un peu plus sur ce que David va dire ensuite à Salomon. Et c'est ça qui nous interpelle, et c'est ce qui m'a interpellé. Parce que David aurait pu écrire un beau psaume sur la fin de ses jours. Il aurait pu dire à Salomon, voilà, j'ai connu des grandes choses. Il aurait pu faire un poème merveilleux. Il aurait pu laisser à Salomon des directives précises sur comment faire la guerre, comment remporter des victoires. Mais il va parler de trois personnes, David. Il va dire, voilà, il y a Joab. Et j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur chacune des trois personnes, parce que je pense que c'est ce qu'il faut d'une part, d'un côté, éviter dans notre vie chrétienne, dans la vie de l'Église. Et d'un autre côté, c'est dans la direction dans laquelle il faut que l'Église aille, dans la direction où il faut que chacun d'entre nous, chaque chrétien, puisse aller. Il va faire mention de Joab. Et je vais passer un petit peu rapidement parce que c'est un contexte. Peut-être ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu le savent. Mais Joab, ça a été un homme de guerre extraordinaire, un héros de David. Il faisait partie de ces héros de David qui ont remporté des batailles fantastiques, extraordinaires. Mais David va dire pour Salomon, voilà, il reste Joab. Il y a Joab avec toi, dans ton entourage. Il y a Joab et tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas rentrer dans mon travail, dans ta vie chrétienne, tu ne pourras pas continuer ton travail, ta vie chrétienne, dans la vie de l'Église, dans la vie de cette Église qui est agréable à Jésus-Christ. On ne peut pas marcher, suivre cette direction en ayant à nos côtés Joab, en ayant, on pourrait le dire pour nous dans notre propre caractère, en ayant une partie de notre caractère qui ressemble à Joab. Joab, c'était le neveu de David, et il avait deux autres frères. Et il y a un de ses frères qui va être assassiné par Abner, le chef de l'armée de Saül. Et depuis ce moment-là, il va y avoir de l'amertume dans le cœur de Joab. Et Joab, ça symbolise un peu la vengeance. Ça symbolise l'amertume. Ça symbolise le non-pardon. Et ce que David est en train d'expliquer à Salomon, son fils, ce qu'il a vraiment jugé nécessaire de laisser un peu comme ses dernières paroles avant de s'en aller, c'est de dire à Salomon, voilà Salomon, peut-être que tu es sage, tu vas connaître de grandes choses dans ta vie, tu vas avoir et connaître l'importance de garder la parole de Dieu, mais voilà ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu règles ce problème dans ta vie, il faut que tu prennes position par rapport à Joab. Il faut que tu prennes position par rapport à la vengeance, par rapport au non-pardon, par rapport à l'amertume qui est là et qui peut s'installer dans ton cœur. Parce que tu vas pouvoir et tu vas vouloir sûrement faire de grandes choses. Je t'ai laissé auparavant d'autres instructions pour que mon temple soit construit. Tu vas pouvoir travailler pour la construction de l'Église. Tu vas pouvoir travailler à ce que des âmes puissent venir à l'Église. Tu vas pouvoir travailler à ce que des personnes vont pouvoir être sauvées. Mais si toi, dans ton cœur, tu ne veilles pas à ce que l'amertume ne s'installe pas, il va y avoir à un moment donné un problème. Il va y avoir à un moment donné un problème. Joab va tuer et David fait mention à ces deux meurtres. Et à chaque fois, vous pouvez le lire, c'est dans 2 Samuel 3 et 2 Samuel 20 où il est question de ces meurtres. Et à chaque fois, Joab va user de superfuges pour pouvoir abattre son ennemi. C'était un peu quelqu'un qui n'avait pas tout abandonné entre les mains du Seigneur. C'était quelqu'un qui gardait, vous savez, on pourrait dire aujourd'hui un jardin secret, qui continue, qui marche avec Dieu, parce que Joab connaissait le Seigneur, il marchait avec Dieu, il marchait de victoire en victoire, on pourrait le dire, il marchait en remportant des batailles extraordinaires, mais il y avait comme une partie de sa vie qui n'avait pas laissé entre les mains du Seigneur. On rencontre souvent ça, où on voit des chrétiens qui décident de dire « Seigneur, je te donne toute ma vie, mais ça, je le garde un peu pour moi. Seigneur, je veux bien te faire confiance dans tel et tel domaine, mais là, tu vois, j'ai pas envie. Là, j'ai pas envie de pardonner. J'ai pas envie de que cette personne puisse s'en sortir. J'ai pas envie que cette personne puisse accéder au salut. Elle m'a fait trop de mal. » Si je dis ça, c'est parce qu'on l'a vécu dans une situation à Nice concernant une personne qui avait été trompée par son mari, qui avait beaucoup souffert, et alors qu'elle livrait son cœur au pasteur, elle faisait comprendre que même si cette personne pouvait demander pardon, même si cette personne connaissait le salut, elle voulait plus de elle, de cette personne, parce qu'elle avait fait trop souffrir. Vous savez, c'est des personnes qui sont là, qui disent « Non, mais j'ai trop souffert, alors c'est normal que je réagisse de telle et telle manière. » Et Joab symbolise tout ça. Et Salomon devait vraiment comprendre, saisir l'importance de ne pas laisser place à l'envie de vengeance. Jésus-Christ ne s'est pas vengé, nous ne sommes pas appelés à nous venger, et l'Église n'est pas appelée à se venger. Salomon devait comprendre que s'il voulait bâtir le temple de Dieu, Salomon devait comprendre que s'il voulait rentrer dans le travail de son père, il n'était pas appelé à verser le sang, il n'était pas appelé à faire la guerre, à remporter des victoires par sa propre force. De la même manière que l'Église n'est pas appelée à faire la guerre, que l'Église n'est pas appelée à verser le sang, que toi, dans ta propre vie, tu n'es pas appelé à te faire justice toi-même. Parce que nous, chacun d'entre nous, l'Église de Jésus-Christ, elle est appelée à propager la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Dans Philippiens, il est écrit, Philippiens 4, 31, que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent de milieu de vous. Et c'est ça que Salomon devait vraiment saisir. Saisir ces vérités spirituelles qui sont tellement puissantes. Vous savez, je l'ai vécu, je peux en parler, parce que je l'ai vécu dans ma famille, alors qu'il y avait une situation vraiment délicate, une situation familiale difficile. J'en voulais à ma plus grande sœur. Et à un moment donné, je m'étais tourné vers Dieu. Il y avait quand même cette partie, cette amertume, cette colère que j'avais gardée contre ma sœur. Et alors que je priais une fois dans une réunion de maison de prière, je ressens l'importance de demander pardon, de dire « voilà, je te demande pardon pour le comportement que j'ai eu ». Et ça a été un combat parce que j'ai mis plusieurs mois avant d'aller voir ma sœur qui avait fait tellement souffrir ma famille. Et jusqu'au moment où j'ai compris que je ne pouvais pas lutter avec Dieu. Il ne fallait pas que l'amertume reste parce qu'on ne peut pas continuer avec Dieu en gardant l'amertume. On ne peut pas essayer de remporter des victoires en ayant cette amertume en nous. On ne peut pas essayer de dire « Seigneur, je te donne toute ma vie, mais je garde cette part d'amertume, je garde cette part de colère parce que voilà, j'ai trop souffert en moi. J'ai trop souffert, alors on alimente et on se donne raison. » Et au bout de plusieurs mois, vraiment, je suis allé voir ma sœur et je lui ai demandé pardon. Et des années plus tard, je ne peux pas tout raconter parce que peut-être une autre fois j'aurai l'occasion de vous raconter, mais des années plus tard, ma sœur qui ne voulait rien entendre de l'Évangile a commencé à se tourner vers Dieu. Et elle dira, mais voilà, la fois où tu es venu me demander pardon, ça m'a interpellé. Il n'y a pas eu que ça, ce n'est pas ça qui a contribué, mais ça fait partie du plan de Dieu pour qu'elle puisse se poser des questions et revenir vers Dieu. Salomon devait vraiment comprendre cela. Et je pense que David a compris qu'il devait exprimer ça pour son fils. La deuxième personne que j'aimerais voir avec vous, c'est Shimei. Je ne sais pas si je prononce bien, mais on va dire Shimei ce soir. Shimei, c'est un peu une personne particulière, parce que David va reprendre, il va dire, mais voilà, il a prononcé contre moi des malédictions violentes. Des malédictions violentes. Et Shimei, la signification, il y a quelques traductions, mais je me suis arrêté sur deux significations. On pourrait traduire Shimei par renommée ou bruit sans valeur. Et la raison d'être de Shimei, ça a été de répandre des bruits de malédiction contre David, de répandre une renommée de malédiction contre David. De venir comme pour perturber la vie de David. Et je me suis dit, mais voilà, David, laisse ça à Salomon encore une fois. C'est parce que Salomon devait comprendre une chose, et là vous me voyez arriver, c'est que nous, dans notre vie, on n'est pas appelé à maudire, on est appelé à bénir. Nous, dans notre vie, on n'est pas appelé à pouvoir dire du mal des autres. On n'est pas appelé à avoir un jugement néfaste. L'Église n'est pas appelée à prononcer un jugement, bien entendu, je remets ces paroles dans un contexte, à un jugement de valeur sur telle et telle personne. On sera appelé à juger, mais bien plus tard. On n'est pas appelé à juger les personnes qui viennent ici, qui ont besoin de salut, qui ont besoin de la grâce de Dieu. On n'est pas appelé à prononcer des malédictions. Et vous savez ce que Shimei va dire, et peut-être là je ferai une petite parenthèse en sortant un petit peu du cadre du thème de ce message, parce que vraiment je me suis dit, voilà la direction de l'Église, du chrétien, ce qu'il doit éviter ou ce qu'il ne doit pas éviter, ce qu'il doit faire, pardon, et ce qu'il ne doit pas faire. Mais Shimei va aller plus loin, parce que c'était lorsque David a fui Absalom. Lorsqu'il a pris la fuite, il a fait une longue route et là il se retrouve face à Shimei qui prononce des malédictions. Et Shimei va regarder David en lui disant, mais voilà, c'est relaté dans 2 Samuel 16, il va dire, voilà, l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, comme tu le mérites. Et je fais une petite parenthèse parce que peut-être quelqu'un ici ce soir se retrouve face à une telle personne. On n'est pas appelé à maudire, et ça on le sait tous, je crois bien que c'est une réalité pour nous dans nos vies, on n'est pas appelé à répandre le sang, on est appelé à bénir, on est appelé à répandre la paix autour de nous, on est appelé à propager cette espérance qui est en nous, on est appelé, quand bien même les circonstances ne sont pas favorables, à pouvoir témoigner, et alors que peut-être on a saisi cette réalité spirituelle, alors que peut-être que tu as saisi, et ton seul désir c'est de faire la volonté de Dieu, c'est d'aller dans cette direction, c'est de pouvoir bénir les autres, tu te retrouves face à des personnes qui prononcent des malédictions, qui t'insultent, qui t'injurent, qui essayent de bafouer la grâce de Dieu pour toi dans ta vie, des personnes qui te disent « Mais voilà, alors que tu es dans l'épreuve, c'est quelque part ce que Shimei a fait pour David. Il lui a dit, mais c'est bien fait pour toi. Tu es malheureux, mais tu le mérites. Tu es dans cette situation parce que c'est de ta faute, tu le mérites. » Et vous savez ce que David a répondu, et c'est vraiment là où on voit que c'est un homme qui avait ce cœur de Dieu, ce cœur qui était agréable, favorable. C'était un homme qui comprenait l'amour de Dieu pour ses semblables. Il va dire, ben voilà, peut-être que l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Autrement dit, il va dire, mais voilà, aujourd'hui, je suis dans le malheur, mais peut-être que mon Dieu va me voir dans le malheur et qu'il va me restaurer. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que toi, tu es là ce soir, tu es dans le malheur, on te pointe du doigt, tu es comme calomnié dans ton entourage, dans ton environnement, et tu te dis, mais comment est-ce que je dois réagir? Peut-être que tu as envie de réagir comme les soldats de David. Vous savez, l'entourage de David, ils ont dit une seule chose. Ils ont dit, ah, mais si tu veux, laisse-nous aller lui couper la tête. Je dois dire que ça aurait été peut-être... le problème aurait été vite résolu. Peut-être que quelquefois, des fois, dans notre propre vie, on a envie que des têtes tombent, hein, si je puis m'exprimer ainsi. On dit, ah, mais Seigneur, s'il te plaît. Mais voilà comment David a réagi. Il a dit non. Non, parce qu'il y a un temps où on peut être abaissé, mais il y a un temps où on peut être élevé. Ça m'a fait penser à ce que Joseph a pu dire, on revient un petit peu à Joseph, mais à ce que Joseph a pu dire à ses frères. Il va dire, mais voilà, vous aviez médité de me faire du mal. Vous aviez médité des choses mauvaises, mais Dieu l'a changé en bien. Et vous voyez, David avait dans son esprit, dans son cœur, cette réalité spirituelle qui doit jamais s'éloigner de nous, c'est que Dieu est maître des circonstances. Et au travers de tout cela, c'est cet enseignement qu'il voulait laisser à Salomon. Et c'est cet enseignement que l'Église doit se saisir, que chacun d'entre nous devons saisir ce soir. C'est que quand bien même nous vivons des situations difficiles, nous vivons des périodes de vie qui sont quelquefois tellement délicates, on ne peut pas aller toujours bien, ce n'est pas possible. J'ai envie de dire même, je pourrais pousser en disant « si on va toujours bien, c'est qu'il y a un problème ». Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, mais vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des difficultés, il y aura des moments dans votre vie où vous allez être pointé du doigt, où on va vous maudire, on va essayer de vous calomnier, où on va vous dire, mais c'est bien fait, voilà ce qui t'a pris de suivre Jésus, je t'avais prévenu, ne suis pas Christ, je t'avais prévenu, ne t'engage pas dans cette voie. C'est évident qu'il y aura des moments dans notre vie où on va vivre ces instants-là. Mais de la même manière que David avait cet éclairage spirituel, ce discernement qui était une bénédiction pour lui et pour son entourage, parce qu'il a arrêté son armée pour qu'il lui coupe la tête, il va dire, mais voilà, parce qu'il y aura un moment où Dieu va rétablir les choses. Il y a un moment où Dieu va changer le mal en bien. Il y a un moment où Dieu va complètement bouleverser ton existence. Toi qui souffres, toi qui es dans l'affliction, il y a un moment donné où Dieu voit tes épreuves, voit par quoi tu passes, voit tes larmes, voit tes prières qui sont là, qui sortent de ton cœur. Il y a un moment donné où Dieu va dire, mais voilà, c'est le moment pour ta vie où tu vas être béni. Pour faire le lien avec le Nouveau Testament, on connaît tous ce passage. Il est écrit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, c'est dans Matthieu 5. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà la vision, la manière d'agir de l'Église. Il y a un processus, je pense à ce témoignage, je sors un petit peu du cadre. Sur la Côte d'Azur, il y a une chrétienne d'une autre église et on a partagé ce témoignage et on a été bénis, qui dans son immeuble avait une dame dont son fils a eu un grave accident de voiture. Et elle n'avait pas trop de rapport avec sa voisine, mais lorsque la chrétienne a compris que son fils avait eu un accident de voiture, cette femme est allée voir la voisine en disant « Ben voilà, je veux venir à l'hôpital, je veux vous accompagner pour prier pour votre fils. » Et cette chrétienne qui rend témoignage dira « Mais j'étais tellement... » Elle n'était pas convertie à l'époque. Elle disait « Mais j'étais tellement désespérée que je pouvais dire oui à tout et j'ai accepté. » Et elle dit « Mais cette chrétienne... » Elle est venue une fois, un soir, elle est venue deux soirs, elle est venue trois soirs, et elle est venue tous les soirs pendant une semaine, pendant deux semaines, pendant trois semaines. Elle est venue tous les soirs du temps de l'hospitalisation de son fils. Et cette femme qui est convertie aujourd'hui, qui a pris les eaux du baptême il n'y a pas longtemps, a dit « Mais j'ai été bouleversée de voir l'amour de cette chrétienne se manifester pour mon fils. Elle ne me connaissait pas. Et tous les soirs, elle allait prier pour mon fils. Et le fils a été rétabli d'une manière extraordinaire. Les médecins n'ont pas compris qu'il a pu reprendre des forces, qu'il a pu se relever après cet accident. Et c'est suite à ça que cette dame s'est tournée vers le Seigneur. Il faut prier sans cesse. Priez pour ceux qui nous maudissent, priez pour ceux qu'on ne voit pas, parce qu'il y aura forcément un fruit. Il y a cette dernière personne dont j'aimerais vous parler, parce que si les deux dont nous avons parlé représentent un peu cette direction qu'il ne faut pas prendre, représentent pour Salomon ce qu'il devait régler avant de pouvoir rentrer dans son royaume, représentent les affaires, si je puis dire, à boucler, excusez-moi l'expression, avant de pouvoir reprendre le royaume entre ses mains. Il devait éviter mettre de côté Joab et Shimei parce qu'il n'y a pas de place à la malédiction et au sang dans la vie d'Israël, dans la vie de l'Église, dans la vie de chaque chrétien. Il y a un homme qui a été honoré. Et cet homme, ça représente un peu ce que, à quoi l'Église est appelée. C'est Barzillai. Je ne sais pas là aussi si je le prononce bien, mais on l'appellera comme ça. Son histoire est relatée dans 2 Samuel 17. On ne peut pas tout lire, vous comprenez bien. Mais là, ce que David va dire à son fils, il va lui dire, mais voilà, tu vas l'appeler à ta table parce qu'il faut honorer. Il faut honorer ses enfants. Ce qu'il a fait, et ça arrive, vous pourrez lire l'histoire chez vous parce que c'est vraiment intéressant. C'est relaté en vraiment quelques versets. Mais Barzillai arrive juste après que David ait été maudit par Shimei, juste après qu'il y ait ce temps d'épreuve. Et il va arriver en disant « Mais voilà, je vais vous offrir de quoi pourvoir à vos besoins. » Et j'ai noté, il a vraiment donné avec abondance à David et à son armée. Il va donner des lits, il va donner des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème. Il va donner de l'orge, de la farine et du froment. Il va pourvoir à tous les besoins, de David et de ses hommes. Et il va dire, il va rajouter cette phrase, et c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés. C'est vraiment ce à quoi l'Église est appelée à œuvrer. Il va dire, mais ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Ce peuple a dû souffrir. Et Salomon devait honorer cet homme. Parce que David voulait qu'il comprenne que ce sont des tels hommes dont il avait besoin dans son église. C'est de tels hommes, c'est toi, mon frère, ma sœur, dont l'église a besoin pour grandir. Toi qui vas venir et qui prends soin de la veuve, de l'orphelin, pour faire le lien avec le Nouveau Testament. Qui va pouvoir donner un verre d'eau à celui qui en a besoin. Qui va pouvoir vêtir celui qui est nu. Qui va pouvoir donner une nourriture spirituelle à celui qui a besoin. Parce que à ce moment-là, et quand Barzillai intervient dans la vie de David, c'était pas lorsque David était roi, c'était pas lorsque David était au plus haut de sa gloire, c'était pas lorsque David était sur son trône paré de fin lin avec le sceptre, c'était pas lorsque David pouvait régner et avait toute son autorité, mais c'était lorsque David fuyait, lorsqu'il a traversé un désert, lorsqu'il avait faim, lorsqu'il avait soif. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés chacun d'entre nous, c'est à œuvrer pour pouvoir apporter du réconfort aux âmes qui en ont besoin, pour reprendre, pour faire le lien avec le Nouveau Testament. Et je l'ai entendu dans une prière ce soir, lorsqu'il est parlé de, lorsqu'il dit, mais voilà, ce peuple a dû être tellement fatigué, usé par le désert. Ce peuple, ces personnes ont dû être tellement usées par le désert de ce monde. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Et je vais vous donner du repos. Voilà ce que Salomon devait vraiment comprendre et ce qu'il devait faire dans sa vie. Avant de prendre la succession, il devait régler certaines choses. Et peut-être que ça peut paraître un peu dur, mais mon frère, ma sœur, il ne faut pas, comme on dit, faire le point uniquement le 31 décembre et le 1er janvier en disant « mais je fais un peu le point dans ma vie spirituelle pour savoir ce que je dois faire, ce qu'il y a de bien dans ma vie ou ce qu'il n'y a pas de bien ». Il y a cette remise en question qui doit être là et nous faire réfléchir à la lumière de la parole. Et Salomon, il avait, et David rend de lui déjà ce témoignage, déjà qu'il était sage, qu'il savait comment il allait faire les choses, mais il devait comprendre qu'il avait certaines choses qu'il ne devait pas absolument pas accepter dans sa vie, mais qu'il y avait d'autres choses qu'il devait encourager et prendre. Le Barzillai va dire, mais voilà, ce peuple a dû souffrir de la faim, et pour vraiment faire le parallèle avec le Nouveau Testament, Jésus a dit, mais moi je suis le pain de vie, je suis le pain de vie. Je suis celui qui vient en moi n'aura jamais faim, n'aura jamais faim. Et c'est ce pain de vie qui nous nourrit, c'est ce pain de vie qui va nous construire, construire notre identité. On peut, vous savez, réfléchir à beaucoup de choses. Et je rencontre beaucoup de personnes qui réfléchissent sur les choses. Mais le problème, c'est qu'ils réfléchissent sur beaucoup de choses et qu'ils se font une idée par rapport à leur réflexion, mais qu'ils oublient de mettre tout ça par rapport à la parole de Dieu. Ils oublient de prendre comme référence la parole de Dieu. Et ce qui doit nous intéresser, ce qui doit diriger, conduire notre vie, c'est de dire, Seigneur, on peut trouver dans ce monde beaucoup de nourriture. On peut trouver énormément de choses. On pourrait, et on entend malheureusement beaucoup de chrétiens dire « Ah, mais j'ai plus besoin d'aller à l'église, vous savez, maintenant, je vais sur Internet, je regarde mon culte en direct et tout va bien. » On voit des personnes se couper de la communion fraternelle, se couper de la parole de Dieu, se couper de la prière. On voit des personnes qui sont là et qui se disent « Mais de moi-même, je peux m'en sortir, je peux me nourrir. » Mais comme Barzillai l'a fait, et comme nous sommes appelés à le faire, nous devons rejeter et apporter ce pain de vie aux personnes qui en ont besoin. Parce que si ce n'est pas nous qui allons donner ce pain de vie, c'est l'ennemi qui va s'en occuper. Si nous ne sommes pas nourris, nous, par le pain de vie, c'est le monde qui va venir nous nourrir. Si nous ne sommes pas là, proches de ceux qui en ont besoin, c'est le monde qui va s'en occuper. Et à ce moment-là, ils seront perdus. Barzillai va dire, mais ils ont eu soif. Ils ont eu soif, et on se souvient lorsque Jésus va dire à cette Samaritaine, mais voilà, tu pourras puiser autant d'eau que tu voudras dans cette fontaine, dans ce puits, mais tu auras toujours soif. Moi, je suis capable de te donner cette eau en abondance. Et c'est ce à quoi vraiment l'Église est appelée, et nous sommes appelés chacun d'entre nous. J'aimerais finir avec ce que, peut-être on pourrait le lire ensemble, c'est dans 1 roi, chapitre 2, au verset 46. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. Et c'est juste la fin de ce verset 46 qui est intéressante. Il est écrit, la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. On pourrait comprendre, et vous l'avez compris, affermie, on pourrait le traduire par stable, par, et c'est ça qui est vraiment, c'est la signification du mot stable et constant. Vous voyez, et c'est ça dans laquelle nous, on doit marcher, ce chemin dans lequel nous devons marcher, pour être stable et constant dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Pas en dents de scie, pas avec des hauts et des bas, mais en ayant cette stabilité. en ayant fait ces choix dans notre vie, de dire « je ne veux pas laisser de place à la vengeance, à me faire ma propre justice, je ne cherche pas ma justice, la justice des hommes, mais ce qui m'intéresse, c'est la justice de Dieu. Je ne veux pas être là et calomnier, je ne veux pas être en proie à la méchanceté, mais je veux seulement bénir et propager la paix. » Et lorsqu'on prend cette direction-là, il y a cette stabilité avec la présence de notre Dieu au travers de la parole de Dieu, la communion fraternelle. Et l'Église de Jésus-Christ, vous savez, l'Église de Jésus-Christ est belle et elle est stable. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. J'aimerais juste, on pourrait, là je terminerai vraiment par ce qui est écrit dans Luc 22, verset 28. Parce que vous savez, Barzaï, ses enfants plutôt ont eu la chance de pouvoir être à la table du roi. Et c'est nous, la bénédiction pour chacun d'entre nous. Luc 22, verset 28, on l'a entendu dans une prière par rapport aux noces de l'agneau. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà ce à quoi l'Église, ce à quoi chacun d'entre nous en est appelé, à pouvoir nous régaler à la table du roi. Voilà cette grâce que Dieu nous fait. Vraiment, ce privilège de pouvoir être assis à sa table, de pouvoir manger, de pouvoir nous réjouir. Et c'est ce à quoi nous devons espérer jour après jour, cette direction et cette bénédiction qui sera la nôtre lorsque Jésus-Christ va revenir. Peut-être que quelques-uns auront été un peu échaudés par rapport à ce message, mais c'est vraiment ce message que j'avais sur mon cœur. Et vous savez, quelquefois, c'est difficile pour un prédicateur parce que on a peur de passer à côté de la pensée de Dieu, mais quelquefois, il faut dire ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, et c'est vraiment ce message, c'est sans jugement, mais parce que je l'ai vu dans tellement de vies. Mon frère, ma sœur, s'il y a des choses que tu as laissées rentrer dans ton cœur, ne les laisse pas grandir, prospérer, ne laisse pas l'amertume grandir, au risque de me répéter. Il y a ce que Salomon devait faire avant de prendre son règne, avant de continuer l'œuvre de son père. Il y a ce que nous devons prendre. On ne peut pas, on le partageait d'ailleurs avec les frères juste avant, et on ne peut pas prier pour demander que des changements se passent dans notre vie, prier pour un réveil si dans notre vie on garde ces jardins secrets, on garde ces choses qu'on ne veut pas partager, qu'on garde en nous parce qu'on a été blessé ou meurtri par la vie. Mais on doit tout laisser entre les mains de notre Seigneur pour qu'il puisse œuvrer pleinement en nous afin d'obtenir cette bénédiction pour nous et pour l'entourage, pour que l'Église puisse grandir en vérité. Amen. Amen. On peut prier un instant. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que, Seigneur, je sais que tu parles, Seigneur, au travers de ton Esprit Saint. Seigneur, toi seul, Seigneur, es capable, Seigneur, d'aller dans nos profondeurs, Seigneur, pour révéler les choses. Je te prie, Seigneur, pour, Seigneur, mon frère, ma sœur, Seigneur, mon bien-aimé qui est là ce soir, afin qu'il puisse, Seigneur, se mettre devant toi, et s'il y a quelque chose qui l'empêche de pouvoir accéder à ta table, Seigneur, tu l'aides, Seigneur, afin que sa vie soit un sacrifice d'une agréable odeur. Père, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à nous trouver dignes devant toi, Seigneur, à avoir cette vision spirituelle sur les choses, à avoir ce discernement, afin de pratiquer ces œuvres, Seigneur, qui te sont bonnes, afin de pouvoir porter du fruit en abondance. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir pourvoir, Seigneur, aux besoins, Seigneur, de ceux qui en ont besoin, de pouvoir propager ta bonne parole, Seigneur, de pouvoir étancher la soif de ceux, Seigneur, qui sont asséchés par les déserts de ce monde, pour ta seule gloire. Merci pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu as déjà fait, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.